Vous connaissez les recueils de la bonne chanson, n'est-ce pas? Hein? C'est des recueils qui ont été très populaires pendant des dizaines d'années. C'était la manière dont on pouvait se divertir le soir. Jean-Guy, hein? Vous avez joué de la musique en chantant des chansons de la bonne chanson. Donc, ça fait partie de notre patrimoine et il y a des gens qui redécouvrent hein, ces chansons-là qui étaient faciles, des mélodies faciles avec des paroles amusantes, divertissantes. Il y en a une là, qui me vient à l'idée ce matin, là, qui me vient « Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. On dit qu'il y en a deux testaments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Hein, » ça continue. Dieu qui règne dans les cieux. Là, ça continue. 3, 4, 5. C'est le fun, hein? Vous savez qu'il y a une tendance en spiritualité et en théologie depuis un certain nombre d'années de faire attention à l'utilisation qu'on fait du terme Ancien Testament, Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament ne cause aucun problème parce qu'il est nouveau et toujours nouveau. Mais certains auteurs relèvent que l'idée de l'Ancien Testament n'était pas très appropriée quand on parle de la première partie de la Bible. Et la raison est que dans le langage quotidien, quand on parle de quelque chose qui est ancien, en général, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dépassé. Ça tient du folklore, quelque chose de folklorique. Par exemple, des antiquités. Hein? Quelqu'un peut rentrer dans une maison, regarder un beau meuble, c'est très très beau, c'est une antiquité, c'est magnifique, mais c'est pas moderne, donc c'est pas nécessairement utile. En technologie, c'est encore pire. Une antiquité, c'est quelque chose qui sert absolument à rien. Donc, te parler de l'Ancien Testament comme étant quelque chose d'ancien apporte avec lui une connotation négative que certains auteurs aimeraient qu'on laisse de côté. Mais il y a des raisons pour lesquelles on utilise un terme comme celui-là pour désigner l'Ancien Testament, le premier Testament, et on n'a pas besoin d'aller plus loin que le dernier verset de la première lecture. Écoutez, comment est-ce qu'on peut appeler l'Ancien Testament autrement lorsqu'on dit, en parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Oui, aïe, aïe! C'est dur, hein, comme affirmation. En fait, il faut savoir que c'est rare qu'on désigne l'ancienne alliance comme étant ancienne. On parle toujours de la première alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, pas un problème, c'est comme le Nouveau Testament. La première alliance désigne de quelque chose qui est venu avant. On voit Jésus dans l'Évangile qui va le dire, hein? Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il dit qu'il n'y a pas un seul iota de la loi qui va être éliminé. Alors, l'intention de l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est par-delà le langage ou les citations hors contexte, c'est de montrer que tout est réalisé en Jésus. Ce qui est venu avant n'est pas dépassé. Il est accompli en Jésus. Petite distinction à faire. Et si on veut avoir un ton un peu sévère ou un peu drastique, on pourrait juste aller avec l'Évangile et voir comment Jésus s'est situé, lui. Comment est-ce qu'il s'est situé par rapport à l'Ancienne et à la Nouvelle Alliance? Quel langage il a utilisé? Dans l'Évangile, on a Jésus qui appelle des disciples pour venir à sa suite. Mais il ne les désigne pas comme apôtres dans l'Évangile selon saint Marc. Et c'est intéressant parce qu'en les désignant comme apôtres, il aurait bien indiqué à ceux qui l'écoutent que ce qu'il est sur le point de faire est en rupture avec ce qui a précédé parce que le mot apôtre n'existe pas ailleurs que dans le Nouveau Testament. Non, il n'utilise pas le mot apôtre ici. C'est quel mot qu'on utilise? Les 12. Et deux fois plutôt qu'une. Et quiconque connaît les Saintes Écritures sait que le nombre 12 désigne les 12 tribus d'Israël. Et donc, et l'évangéliste saint Marc, et probablement Jésus, ont à l'esprit qu'avec le choix de ces 12, il y a un accomplissement qui se fait. Les 12 tribus de l'Ancien Testament se réalisent maintenant dans la présence des 12 apôtres. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Vous savez, quand on parle, souvent, c'est pas tant ce qu'on dit qui est important que le ton avec lequel on le dit. Hein? D'ailleurs, les parents n'arrêtent pas de le dire sur leurs enfants. Parle-moi pas sur ce ton-là. Ma mère me le dit souvent. Parle pas sur ce ton-là. Alors, des fois, on a des choses légitimes à dire, à souligner, mais des fois, on utilise un ton qui n'est pas tellement approprié. Et dans notre monde d'aujourd'hui, on vit des problèmes aussi, puis des fois, on ne sait pas trop comment les aborder. Il y a des sujets qui sont hot ou qui sont chauds dans le discours quotidien, puis des fois, ce serait facile de pouvoir aller dans ce qui nous a précédé, d'aller chercher ce qui nous convient, puis d'affirmer avec fermeté, voici comment ça doit être. On peut penser, par exemple, à l'homosexualité, transgenre, le genre de sujets qui sont très, très délicats. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a toujours une continuité dans tout ce qui vient. Il n'y a jamais quelque chose d'ancien par rapport à ce qui est nouveau. Tout est toujours nouveau. Et quand Jésus a choisi ses 12, il a utilisé un mot qui est associé avec le mot « apôtre », et c'est dans le sens de proclamer la bonne nouvelle. Quand il a envoyé les 12, il les a envoyés proclamer une bonne nouvelle. Jésus nous appelle, vous et moi aujourd'hui, par notre nom, comme il l'a fait pour les 12. Et il nous envoie dans le monde, non pas pour les condamner, mais bien pour annoncer une bonne nouvelle.